BFM, il est 23h. Le journal de l'économie, Jean-Christophe Rosset.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, a renoué avec la croissance l'an dernier grâce essentiellement à ses exportations dynamiques. Le pays a connu en 2004 une progression de son PIB de 1,7%. Mais ce sursaut de la croissance n'a pas endigué le dérapage du déficit public allemand qui a atteint l'an dernier 3,9% du PIB. Pour cette année, Berlin promet de revenir dans la limite du pacte fixé à 3%. La France a terminé l'année 2004 avec une inflation à 2%. Les prix à la consommation sont restés pratiquement stables en décembre. Ils ont augmenté de 0,1% par rapport à novembre selon les données provisoires communiquées par l'INSEE. Sur un an, l'inflation est donc de 2%. Statu quo monétaire de la Banque Centrale Européenne, le Conseil des gouverneurs qui s'est réuni aujourd'hui à Francfort a maintenu à 2% son principal taux directeur. Cette décision a été largement attendue par les économistes. Jean-Claude Trichet a défendu ce nouveau statu quo monétaire. Pour le président de la BCE, les pressions inflationnistes se sont récemment atténuées. Il a aussi assuré que l'institution resterait vigilante sur l'évolution des prix à court terme. Les défaillances d'entreprises ont été un peu moins nombreuses en France en 2004. Elles ont augmenté de 1,5% après une hausse de 11,7% en 2003. C'est ce qui ressort de l'étude publiée par la société d'assurance crédit-holaire Hermès SFAC. Ce résultat est cependant un peu décevant. En effet, les économistes espéraient un léger recul du nombre des défaillances compte tenu de l'accélération de la croissance observée en 2004. Pour l'année en cours, l'assureur table sur un léger recul de 1% des défaillances. La riposte à France Télécom s'organise. Les opérateurs alternatifs ont été reçus cet après-midi par le ministre délégué à l'Industrie, Patrick Devedjian. Ils sont venus exposer leur point de vue après l'annonce de l'opérateur historique qui affirme vouloir baisser les tarifs des appels tout en augmentant le prix de l'abonnement. C'est l'autorité de régulation des télécoms qui doit trancher. Si elle donne raison à France Télécom, les opérateurs alternatifs redoutent une distorsion de concurrence. Nicolas Sarkozy a profité de ses vœux à la presse pour se démarquer une fois de plus de Jacques Chirac. Le président de l'UMP a émis des réserves sur la décision du chef de l'État de reprendre la baisse des impôts en 2006. Pour l'ancien ministre de l'économie, ce n'est qu'en fonction de l'impératif d'équilibre budgétaire qu'il faudra envisager des baisses d'impôts. L'avenir de Marionno pourrait passer par la Chine. Selon un syndicat, le distributeur de parfums a conclu un accord pour être racheté par le groupe chinois A.S. Watson. Une information cependant démentie ce soir par la direction de Marionno. L'intérêt de Watson pour Marionno et ses 1300 magasins n'est pas surprenant. Le chinois détient déjà plusieurs chaînes d'hygiène beauté et de parfums en Europe. Enfin, le salon du meuble a ouvert ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Un salon qui réunit des milliers d'industriels et qui se tourne de plus en plus vers les nouvelles tendances de l'ameublement côté design. Vous écoutez BFM, c'est la fin de ce journal.
BFM, la radio de l'économie.
Excellente fin de soirée, tout de suite Luc Fayard pour 01 Business.
BFM Pro. 01 Business avec la rédaction de 01 Informatique, Luc Fayard.
Bienvenue à tous et à toutes, c'est Luc Fayard, directeur de la rédaction de 01 Informatique. Nous sommes ensemble sur BFM pour une heure dans 01 Business, l'entreprise face aux nouvelles technologies. Une émission réalisée en collaboration avec la rédaction de l'hebdomadaire 01 Informatique. Un sommaire très riche aujourd'hui grâce à nos quatre invités autour de quatre grands thèmes. D'abord, le secteur du conseil, et notamment le conseil informatique avec l'un de ses grands représentants, président de Accenture France, Benoît Génimini. Bonsoir.
Bonsoir.
Ensuite, l'informatique d'une grande entreprise française, leader mondial de l'énergie, avec le directeur des systèmes d'information du groupe Areva, Serge Lafont. Bonsoir.
Bonsoir.
Troisième grand sujet, le logiciel libre, de plus en plus dans l'actualité, avec l'un de ses grands promoteurs en France, le nouveau président de April, l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre, Benoît Cibot. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, notre dernière séquence, un autre regard, le moment où on prend un peu de recul, et cette fois sur les technologies et le cyberespace, ce sera le regard du philosophe Jean-Michel Besnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien sûr, toujours notre coup de pouce à une start-up. Ce sera un coup de téléphone avec Pierre-Emmanuel Albert, directeur général et fondateur de la société Tinubu Square, spécialiste de la réduction du risque financier. Sans oublier les chroniques coup de cœur et coup de griffe des journalistes de la rédaction de 01 Informatique cette semaine. Frédéric Simotel, rédacteur en chef, qui regarde dans sa boule de cristal pour 2005. Jean-Marie Portal, qui nous parle du métier de directeur informatique en temps partagé. Et Anis et Mbida, des gens qui s'énervent sur leur ordinateur. Il y en a beaucoup. Voilà pour le sommaire, toujours aussi riche de notre émission 01 Business, l'entreprise face aux nouvelles technologies. Et on commence donc par le secteur du conseil avec vous, Benoît Génimini, président de Accenture France. Ce secteur a connu des jours meilleurs. Hein. Le conseil, c'est peut-être un peu comme la pub, ça fait partie des budgets qu'on sucre dès qu'on a un problème.
On a redémarré en 2004.
après deux années, 2002 et 2003, qui ont été tout de même très moroses.
Voire difficiles.
Voire tristes. Et 2004 a marqué une petite reprise des investissements. Avec, en France, on estime à 2 à 4% la croissance du secteur logiciel et services. Et
c'est des petits chiffres, mais enfin, ça redémarre quand même, quoi.
Ça redémarre, on a été en croissance négative pour la profession en 2003. Bon, et on espère un petit peu mieux pour 2005 avec un investissement des entreprises qu'on espère voir repartir.
Et juste une info, il paraît que le mot Accenture a été créé à partir de l'expression Accent on the Future. C'est vrai ça ou pas?
Oui, c'est vrai, ça a été trouvé par un jeune consultant norvégien, pour tout vous dire, mais j'aime bien aussi le côté un petit peu aventure.
Alors, Accenture France, c'est 3800 personnes, un chiffre d'affaires 2003 de 740 millions d'euros, et votre slogan, c'est, je cite, conseil en management, technologie de l'information et externalisation. On comprend bien les deux premiers termes, mais il fallait vraiment rajouter ce mot externalisation dans votre définition. C'est vraiment une partie importante de votre mission maintenant, l'externalisation, Benoît Gemini.
En France, c'est un petit 20% de notre chiffre d'affaires, en croissance, plus forte que l'activité de conseil d'une part et que l'activité d'intégration de systèmes informatiques d'autre part. Et au niveau mondial, un tiers de notre chiffre d'affaires est déjà fait dans l'externalisation.
C'est quoi la différence? Parce qu'on me pose souvent cette question entre une société de conseil comme la vôtre et finalement une société de service classique, on va dire une SS2I. Quelle est votre définition de la différence?
Bon, je crois que nous, on cherche surtout à mener des projets plus qu'à déléguer des informaticiens ou des consultants dans des entreprises, à mener des projets sur lesquels on prend une responsabilité et à faire en sorte que ces projets aient un impact business, je dirais un impact sur l'activité, le fonctionnement de l'entreprise ou sa stratégie, en utilisant l'informatique, les technologies nouvelles comme levier pour effectuer ces changements de business.
Alors, avant de nous parler des conseils que vous délivrez aux autres, on va en profiter pendant que vous êtes là, quelques conseils gratuits. Parlez-nous d'abord de Accenture. Comment fait-on dans votre secteur quand on a connu cette crise, cette difficulté? Quelle était un peu la stratégie pour surmonter cette crise?
Ah, écoutez, d'abord, on a été très vigilants en tout ce qui concerne la gestion interne. Ne pas recruter trop de gens pour ne pas avoir de mission à leur confier, et puis surtout garder une attitude assez proactive vis-à-vis des clients. Nous, on a l'habitude d'essayer de fidéliser les clients, c'est-à-dire d'entretenir une relation de long terme avec eux pour rebondir sur de nouvelles opérations avec eux, en les connaissant bien, en étant un peu dans leur intimité, et puis surtout... Le cœur de la stratégie, même si ce sont un peu des grands mots, c'est d'essayer toujours d'avoir une valeur ajoutée pour rendre service véritablement au client, améliorer ses opérations à lui, plutôt que de penser à notre marge ou à notre occupation de consultant.
Alors, dans votre fonctionnement, vous avez une particularité, c'est que par exemple, vous êtes le président hiérarchique de France, d'Accenture, mais vous êtes également le patron de l'activité dans le secteur de l'énergie, des matières premières. C'est important cette double casquette ou c'est pas un peu compliqué à gérer, Benoît Gemini?
C'est une structure qui se veut matricielle et je crois que c'est aussi, ça fait partie de la dynamique d'organisations internationales comme la nôtre. Ma responsabilité sur le secteur énergie, matières premières, elle est même au niveau européen. Donc elle m'amène à voyager, à connaître des situations très 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 extraordinaires, très très nouvelles, et en même temps j'ai cette responsabilité purement française. Il faut qu'on travaille dans notre métier selon plusieurs dimensions. À chaque fois qu'on cultive par exemple de rendre service à un client, en connaissant bien ce client, et en même temps qu'on prenne le temps de la réflexion. Quel que soit le client sur l'application des nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de management, le fait de réfléchir à ce que sera la relation client dans tel ou tel grand secteur dans le futur, il faut qu'on ait cette dimension matricielle, donc qu'on soit adaptable dans différents profils.
Serge Lafont, directeur du système d'information de Areva, vous avez vraiment besoin de conseils extérieurs dans le domaine de l'énergie comme celui de Benoît Gemini ou quoi?
Enfin, voilà, On a toujours besoin d'un œil extérieur parce que quand on est à l'intérieur, le nez sur le guidon, on voit pas toujours tout. On a surtout besoin de gens qui effectivement font en permanence dans les entreprises.
Ouais.
Donc on n'a pas des bataillons de chefs de projet l'arme au pied, et quand de grosses opérations se déclenchent, c'est évident qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas dans l'entreprise.
Alors besoin j'ai une mini, on a reçu ici. Oui. Vous avez noté. On a reçu ici à Zorin Business Pierre Alban Pillet, l'auteur du livre Audit et Conseils vu de l'intérieur. J'ai regardé les pages sur Accenture. Il est assez sympa avec vous, hein, mais il vous reproche quand même de ne plus faire progresser aussi vite qu'avant vos collaborateurs. Vous êtes d'accord avec ce jugement ou pas?
Non, je ne suis pas d'accord, mais bon, les jugements sont autorisés. On continue de dédier une grande partie de notre temps et de notre énergie à former des jeunes consultants. D'abord, on embauche en grande majorité, hein, plus de 80%, les gens à la sortie de leurs écoles ou de leurs universités.
Mmh.
Et puis, on les forme. On les forme en moyenne 40 jours par année, pendant les 3 ou 4 premières années.
Oui, c'est quand même lourd. Hein.
Ça, ce sont des formations même en groupe, mais on a des formations individuelles sur Internet, si vous voulez, que chacun prend à son rythme et comme il le veut. Et ça représente un quota assez fabuleux de travail et d'heures de formation. On dédie à peu près 4% de la masse salariale à la formation de nos jeunes consultants.
Et les seniors, là, les gens comme moi, un peu plus âgés, là, pourquoi vous les embauchez pas? Ils ont plein d'expérience aussi, ils pourraient vous aider, non?
Oui, d'abord,
il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu.
Il n'a jamais fait de proposition. C'est vrai qu'il y a une proportion à embaucher des gens qui ont de l'expérience, quand ils sont pas encore, si vous me permettez, trop expérimentés.
Vous voulez les former vous-même, c'est ça que vous voulez dire.
Je préfère les former à nos méthodologies. On préfère les former à notre approche des projets informatiques ou de conseil. Donc, pas attendre qu'ils soient trop expérimentés. Alors, cela dit, on prend de temps en temps, on embauche évidemment des seniors, si vous me permettez, dans des domaines un peu pointus, pour leurs compétences spécifiques, parce qu'on en a besoin, évidemment.
Votre regard aujourd'hui sur l'économie, sur les secteurs, quels sont, à votre avis, les secteurs les plus intéressés par les technologies en ce moment, le plus intéressant pour vous, est-ce que c'est la banque, la distribution, les télécoms? Dites-nous un peu où ça va bouger, selon vous.
Ah, ça bouge beaucoup en ce moment dans tout le secteur des télécoms et du high-tech. On est reparti dans ce secteur-là, là, qui avait eu un gros coup de barre dans les années 2001-2003. Là, on est reparti. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles offres, de nouveaux standards qu'il faut développer. Donc, il faut imaginer ce qu'ont les relations avec les clients. Il faut imaginer ce que seront les systèmes de facturation de toutes ces offres multiples numériques qu'on va offrir.
Alors, est-ce que ce rythme de l'innovation technologique, il n'est pas un peu en train de se ralentir? Et donc, est-ce qu'on parle quand même beaucoup de consolidation, de rationalisation? On est peut-être un petit peu moins dans l'application de vraiment nouvelles technologies. Et ça peut changer votre métier éventuellement?
Oui, vous savez, je ne sais pas quelle est la main qui dirige tout ça, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, pour véritablement introduire les technologies au cœur de l'entreprise. Vous voyez, beaucoup d'entreprises, je vous lis souvent dans 01 informatique, ne disposent pas encore d'un système ERP complet,
un logiciel de gestion intégrée
qui véritablement fonctionne et donne les bénéfices qu'on attend d'un tel système. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour des consultants comme nous pour rendre les choses véritablement opérationnelles dans les entreprises. On fera les sauts technologiques, on les intégrera au fur et à mesure. Il y en a déjà pas mal qu'on fait dans tout ce qui est gestion de la relation client. Il y a beaucoup de technologies dans les cartables et on les appliquera bientôt pour le business des entreprises.
Eh bien, merci de vos prévisions et de vos conseils, Benoît Génuny, président de Accenture France. Frédéric Sémotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Frédéric, vous avez sorti votre boule de cristal, telle une madame Irma dans sa caravane de la foire du trône, et vous allez nous prédire ce qui va se passer en 2005.
Alors, acquisition, fusion, vous allez tout savoir, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une fin d'année 2004 qui a été très chaude avec le rachat de PeopleSoft par Oracle, le rachat de Veritas, l'un des spécialistes des logiciels de stockage, par Symantec, l'un des grands leaders de la sécurité. Donc là, on voit déjà sa fusion. fusionne déjà beaucoup.
Alors ça fusionne, en même temps les dépenses, donc tout à l'heure Benoît Génie nous a dit 4, 5, 6%, comment ça va se passer?
Alors sur le front des fusions acquisitions, je commençais un peu à parler des cibles. Alors on s'attend à un rachat d'un des éditeurs de BEA.
BEA.
Donc déjà, son port, enfin... qui serait candidat, il y a des computers associés.
Mais c'était des conditionnels, voilà, qu'on sait jamais.
Il y aurait des computers associés, il y aurait des Oracle, voilà. Donc déjà, on a des noms qui circulent. D'autres, Microsoft aussi, va sans doute se lancer dans une vague de rachat. Ils n'ont pas réussi à faire tomber SAP dans leur escarcelle, alors ils vont sans doute se relancer ils ont toujours de l'appétit pour des fournisseurs d'applications ou de plateformes d'intégration. Dans les réseaux, Cisco va continuer. En 2004, Cisco a fait 12 acquisitions pour 700 millions de dollars. Donc
80 depuis le début, depuis son lancement. Quoi.
Ils vont continuer sur cette lancée.
Ouais.
Et puis sinon, on va voir des HP, IBM, Sun, ou le leader du stockage EMC, qui eux aussi vont continuer à faire leur marché sur ce secteur. On parle même de Dell, qui sera intéressé par acheter des sociétés de logiciels d'infrastructure.
Alors il y a aussi pas mal de scénarios dans le domaine de la sécurité, je crois. Hein.
Alors la sécurité, comme depuis 3-4 ans, ça va être l'un des grands thèmes de l'année. Mais il y a déjà des scénarios assez fous qui sortent, avec des ordinateurs portables qui pourraient infecter, qui sans fil, connectés sans fil, pourraient infecter tous les périphériques alentours.
C'est la grande panique qui recommence là.
C'est la grande panique qui recommence. On parle de virus encore plus dangereux. Et puis, on parle aussi de tous ces pirates. Alors il serait temps d'arrêter de faire tout ce tintamarre autour des pirates, des jeunes ados, parce que les pirates les plus dangereux aujourd'hui viennent d'Asie ou viennent d'Europe de l'Est.
Bon, alors on parle aussi dans votre boule de, vous voyez dans votre boule de cristal, des opérations de consolidation.
Alors, on va aller parler de consolidation au niveau des architectures informatiques, notamment, mais je parlerai plus de virtualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus avoir de serveurs dédiés à une application, mais on va avoir des serveurs qui seront, selon leur taux d'occupation, seront dédiés à telle ou telle tâche. Donc on parle de virtualisation. On parle aussi beaucoup de la bataille des processeurs qui va continuer entre AMD et Intel. Et puis autour de ces processeurs, justement, il y a ces nouvelles architectures multicœur qui devient vraiment qui va être l'une des grandes batailles aussi cette année dans les serveurs.
Eh bien, merci Frédéric Sébotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique. On se retrouve dans un instant avec Serge Lafont du groupe Areva.
BFM Nouveau. Rendez-vous. De 10h à midi, les grands débats de BFM se mettent en 5 pour l'économie et l'actualité du jour. Lundi, Philippe Bloch insuffle l'esprit d'entreprise. Mardi, Philippe Méchet décortique la vie politique. Mercredi, Noël Lenoir éclaire les enjeux européens. Jeudi, Vincent Giret confronte la théorie économique à l'actualité. Vendredi, Philippe Manière évalue les politiques publiques. Les grands débats de BFM. Philippe Bloch, Philippe Méchet, Noël Lenoir, Vincent Giret, Philippe Manière. 10h midi sur BFM.
Pour savoir où se trouvent les radars fixes et mobiles sur les autoroutes de France, un seul numéro, le 0899 70 22 12. Le service d'information routière, disponible au 0899 70 22 12, contribue à l'amélioration de la sécurité routière et n'a pas pour objet l'incitation à la vitesse. Retrouvez en temps réel les radars fixes et les radars mobiles sur les autoroutes de France. Le 0899 70 22 12 est édité par Flash Info, 1,35€ l'appel, plus 34 centimes la minute.
Pour BFM, le business, c'est partout. BFM à Paris, 96.4. Lyon, 95.3. Lille, 96.4. Strasbourg, 106.9. BFM à Brest, 107.3. À Nantes, 107.2. À Nice, 104.4. BFM à Nancy, 104.1. À Orléans, 99.7. Partout en France, la radio d'économie, c'est BFM. BFM Pro. 01 Business, avec la rédaction de 01 Informatique, Luc Fayard.
Alors, l'informatique dans une grande entreprise française, maintenant avec vous, Serge Lafont, directeur des systèmes d'information du groupe Areva. Vous venez de recevoir le prix 01 Informatique du DSI de l'année. Cela vous fait sûrement plaisir, mais au-delà de la distinction, d'où, à votre avis, tenez-vous cette reconnaissance? Est-ce que c'est parce que vous vous déplacez en roller, Serge Lafont?
Je fais du roller le dimanche avec mes enfants. Je ne fais pas dans ma vie professionnelle.
D'accord, donc vous n'allez pas au bureau en roller? Non, d'accord. Alors cette distinction.
Bah écoutez, c'est comme c'est vous qui me l'avez attribué. Enfin,
c'est pas moi, c'est les membres du jury.
C'est les membres du jury sur proposition du club 01 DSI, donc je remercie tous au passage.
Ouais.
Pourquoi? Peut-être parce qu'aujourd'hui, Areva est est le seul grand groupe industriel qui est en voie de, d'organisation aussi profonde dans le paysage. Il ouais. y a eu une grande transformation il y a 10-20 ans dans l'industrie française, mais comme on est un groupe relativement récent, parce qu'on a 3 ans, on est en train de vivre une intégration assez forte qui se ressent bien entendu sur les systèmes d'information. Donc j'imagine que, à part mes qualités personnelles.
Petite question personnelle, vous êtes l'un des rares managers français à être dirigé par une femme, Anne Nauvergeon. C'est différent, ça se sent dans le management ou pas?
Ça fait 15 ans que je connais Anne Nauvergeon et depuis que je la connais, ça a été ma patronne. Donc,
vous êtes habitué.
Voilà, je suis habitué, c'est quelque chose qui n'est pas un sujet.
Alors, votre parcours passe par maître à transport, le ministère de l'économie, et puis vous avez été conseiller technique à la présidence de la République, chargé du commerce extérieur, puis directeur général de l'INA, l'Institut de l'audiovisuel. L'informatique, finalement, c'est pas vraiment votre truc, Serge Lafond.
Non, j'ai une formation scientifique, donc comme tout le monde, j'ai fait du code, en faisant de la physique, puisque il y a un peu plus de 20 ans maintenant, quand j'ai passé ma thèse, si on voulait faire des calculs, il fallait faire les programmes soi-même. Mmh. Alors j'ai commencé avec de la carte perforée, puis ensuite j'ai passé sur de l'écran monochrome. Et puis ils sont arrivés les PC. En fait, je suis assez un autodidacte de l'informatique. Je suis pas un informaticien au sens pur. Bon, j'ai une culture scientifique. Je suis ingénieur, donc
ça aide.
On connaît la théorie. On a les fondamentaux.
Alors, Areva, hein, c'est un leader mondial de l'énergie. 70 000 personnes, un chiffre d'affaires consolidé, à tout compris, hein, de plus de 11 milliards d'euros. C'est surtout, vous l'avez dit, un groupe qui a été récemment construit, un peu de toutes pièces, à partir de la fusion de nombreuses sociétés, Framatome, Cogema, Alstom, etc. Comment fait-on, Serge Lafond, pour construire une organisation et donc une informatique à partir d'autant de pièces de puzzle?
Ouais, bon, heureusement, c'est il y a 4 grosses pièces, donc c'est un puzzle pour les 2-3 ans. Comment fait-on? On se met avec les gens qui ont construit ces pièces-là, et puis on commence à travailler avec eux pour voir qu'est-ce qu'on va mettre en commun d'abord, et puis ensuite, on dit qu'il faut 5 ans pour bâtir un système d'information, le groupe a 3 ans, on n'est pas encore au bout, mais enfin, on a déjà bien avancé, on a des systèmes de reporting financier, de consolidation qui sont homogènes, on a des reporting de développement durable qui était déployé à travers tout le groupe.
Ouais.
On est en phase de convergence de nos ERP.
Mmh. Vous regardez Benoît Gelmini d'Accenture en disant
il y en a encore pour un certain nombre d'années. on est actuellement en train de fusionner nos réseaux. Parce que jusqu'à maintenant, chaque filiale avait son propre réseau.
Concrètement, là, donc, on est en début 2005. Cette année, 2005, quels sont un peu vos chantiers prioritaires?
La poursuite de la fusion des réseaux, parce que c'est un chantier qui dure plus d'un an. Mmh. À partir de là, un chantier qui va être plus que de la consolidation, qui va être un peu d'innovation, c'est le déploiement d'espaces métiers pour l'ensemble des directions fonctionnelles du groupe. Donc ça va être la première. Ça va être le premier signe de valeur ajoutée apportée par l'informatique
au-delà
de la convergence des systèmes existants.
Ouais.
C'est le fait d'avoir un réseau unique qui va permettre. Toujours les SAP, etc.
Vous avez entendu tout à l'heure Benoît Gelmini, président d'Accenture, mettre l'accent sur l'externalisation. Quelle est un peu votre stratégie en la matière? Où en êtes-vous dans ce domaine et jusqu'où irez-vous?
On est un groupe un peu atypique, parce qu'on a une SS2 interne, qui s'appelle Euryware, qui est le plus petit des gros, le plus gros des petits, donc qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui travaille à 40% pour le groupe et 60% hors du groupe. Donc bien évidemment notre infogérance et nos projets vont en priorité chez Eryware. Bon, maintenant on fait pas tout avec Eryware parce que Eryware n'est pas étant le plus petit des gros, n'est pas assez gros pour être sur tous les projets et sur toutes les spécialités. Donc on travaille régulièrement avec des partenaires, justement comme je disais tout à l'heure, sur nos projets, sur les gros projets pour lesquels on n'a pas les ressources internes, notamment les ERP.
Vous avez une particularité, non, qui n'est pas une particularité, parce que beaucoup de sociétés sont comme vous, c'est sans doute un budget informatique, on va dire quoi, en légère baisse
Ouais.
Alors comment fait-on pour développer tous ces projets que vous avez en tête et que vous avez cités avec un budget en baisse? on fait pression sur les fournisseurs, on supprime le conseil.
Alors, je devrais pas le dire, mais on est dans une situation relativement confortable, parce que comme on vient de quatre systèmes d'information indépendants,
ouais.
en les rapprochant, on crée quand même, on supprime quand même un certain nombre de doublons, et ça, c'est ça qui me donne la marge de manœuvre pour investir sur les projets, tout en ayant un budget qui est en baisse légère.
Est-ce que vous avez le sentiment que les relations avec les fournisseurs, un grand groupe comme vous, avec cette pression sur les coûts, je suppose, hein, que ces relations avec les fournisseurs ont un petit peu évolué. Comment vous les définiriez aujourd'hui?
Non, moi, ce qui me paraît évoluer le plus fort, c'est ce dont on peut dire, c'est la consolidation des fournisseurs.
Ouais.
Et d'avoir,
donc, on parlait Frédéric Limotel,
voilà,
tout à l'heure, ouais.
D'avoir de moins en moins de fournisseurs sur chaque grande. La grande composante.
Et ça vous plaît, ça vous déplaît, ça?
Bon, ça me gêne, parce que ça me rend dépendant.
Ouais,
donc on commence à s'intéresser de plus en plus, comme tout le monde, à l'open source, et de façon prudente mais déterminée, déterminée mais prudente, comme vous voulez. Vous savez, quand vous êtes un commercial, vous avez en face de vous des fournisseurs pour lesquels vous êtes un petit client,
mm-hmm.
parce que 2% du chiffre d'affaires d'une entreprise, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Et vos fournisseurs sont très souvent plus gros que votre propre entreprise. Donc,
dans votre cas, ça va pas arriver souvent, quand même.
Ah, ça, écoutez, regardez les grands éditeurs de logiciels. Et donc, vous êtes dans une relation de confiance, certes, mais enfin, qui demande d'avoir certains garde-fous.
Alors, Benoît Cibot, grand promoteur du logiciel libre, il est trop timide, hein, Areva, non? Vous avez envie de lui conseiller encore plus de logiciels libres?
Oui, bien sûr, je pense que les qualités inhérentes au logiciel libre peuvent fortement intéresser Areva. En particulier, il me semble que la fiabilité qu'on peut trouver sur un grand nombre de logiciels libres devrait les intéresser au plus haut point, ainsi que l'accès, un meilleur contrôle du logiciel et une meilleure sécurité à la fois informatique et économique. Point de vue indépendance peut être intéressant.
Voilà, donc on sent qu'il y a des pistes là qui vont, vous allez vous donner rendez-vous après, hein, peut-être. Hein. Alors, vous voulez dire quelque chose de plus?
Oui, non, mais c'est vrai, je crois à ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on explore les pistes. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'organisation d'une entreprise qui travaille avec des éditeurs n'est pas la même que celle d'une entreprise qui travaille avec du libre. Et ce n'est pas tout le même modèle. Une DSI, c'est une interface entre des éditeurs et des constructeurs, et plus des utilisateurs. Quand vous allez dans le libre, il faut redevenir informaticien.
Accenture, Benoît Genuini, vous travaillez dans le pour ou avec le logiciel libre?
On est comme Areva, hein, on est relativement indépendant des différentes technologies, éditeurs, logiciels, donc on travaille aussi avec du logiciel libre, à hauteur de la part de marché du logiciel libre aujourd'hui, qui est encore un peu discrète, mais qui va sûrement grossir.
On parle de l'innovation ici à 01 Business. Dans un grand groupe comme le vôtre, l'innovation, on imagine bien le travail que ça représente. Quel est le rapport avec l'informatique? Qui soutient qui? Quels sont les rapports entre innovation et informatique chez Areva?
Nous avons chez nous pas mal d'ingénieurs, même beaucoup, qui font des calculs très compliqués sur les grosses machines. Leurs relations sont plus avec le CEA, qui est notre centre de recherche, donc qui les alimente modèle de calcul, etc. La DSI leur fournit les infrastructures et les exploite. Mais nous ne touchons pas aux gros simulateurs.
Eh bien, merci Serge Lafond, directeur des systèmes d'information du groupe Areva. Jean-Marie Portal, journaliste à Zéro Informatique, bonsoir.
Bonsoir Luc.
Alors, on connaissait les DSI par intérim, mais aujourd'hui vous allez nous parler des DSI à temps partagé. C'est quoi la différence?
Honnêtement, c'est une forme d'intérim déguisé.
Bon, d'accord.
La grosse différence, en fait, c'est qu'au lieu d'intervenir dans une seule entreprise, les DSI à temps partagé partagent leur temps, justement, entre plusieurs entreprises. Alors, la deuxième différence, quand même, c'est que le DSI, donc, par intérim, généralement, intervient dans des grosses entreprises, le DSI à temps partagé partage son temps avec des grosses PME, on va dire.
Alors quel est ce rôle exact? Vous parliez un peu de transition, c'est...
Ouais, alors à noter déjà, c'est que les DSI à temps partagé interviennent à la demande des directions générales dans l'ensemble, et en amont, en fait, des sociétés de services qui, elles, sont sollicitées par les DSI. Hein. Donc leur rôle consiste généralement, en fait, à réconcilier les entreprises avec leur informatique, donc c'est une sorte de super DSI temporaire et aussi avec un rôle de médiateur.
Alors quel est le profil de ces DSI? Si, je suppose qu'ils ont un peu d'expérience quand même, non?
Oui, alors comme vous pouvez vous en douter, on trouve beaucoup de quinquagénaires.
Ah ben voilà, enfin, viens les caca.
Pourquoi? Parce que ce sont justement des gens qui ont roulé leur boss en entreprise, et pas forcément seulement en tant que DSI. C'est des gens qui ont eu en main des directions opérationnelles, donc qui ont une bonne connaissance en fait des métiers et des rouages de l'entreprise.
Et ils travaillent comment? C'est des justiciers, des mercenaires?
Alors c'est pas des justiciers solitaires, ils travaillent plutôt en réseau justement, et pas seulement avec des DSI, en fait avec d'autres managers de transition. Et il existe même des associations qui regroupent donc des managers de transition comme ça, dont les compétences couvrent l'ensemble en fait des directions opérationnelles des entreprises, et ils communiquent entre eux et s'entraident sur des missions.
Bon, j'espère que c'est bien payé au moins.
Alors sincèrement pas trop mal, et beaucoup plus que ce que vous me payez d'ailleurs, puisque on estime de sources sûres entre...
Je me fais attaquer en direct, je sais pas quoi dire.
Entre 1000 et 2000 euros hors taxe le prix d'une journée d'un DSI de transition à temps partagé.
Ouais, pas mal.
Enfin bon, le revers de la médaille quand même, c'est que les entreprises en veulent généralement pour leur argent, et puis il faut quand même qu'ils sachent jouer les caméléons, s'adapter, et donc c'est quand même pas donné à tout le monde.
Merci Jean-Marie Portal, journaliste à 01 Informatique. On se retrouve dans un instant. L'essentiel de l'économie. BFM, il est 23h30. L'essentiel de l'économie, Jean-Christophe Croisset.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, a renoué avec la croissance l'an dernier grâce essentiellement à ses exportations dynamiques. Le pays a connu en 2004 une progression de son PIB de 1,7%, mais ce sursaut de la croissance n'a pas endigué le dérapage du déficit public allemand qui a atteint l'an dernier 3,9% du PIB. Pour cette année, Berlin promet de revenir dans la limite du pacte fixé à 3%. La France a terminé l'année 2004 avec une inflation à 2%. Les prix à la consommation sont restés pratiquement stables en décembre. Ils ont augmenté de 0,1% par rapport à novembre selon les données provisoires communiquées par l'INSEE. Sur un an, l'inflation est donc de 2%. Statu quo monétaire de la Banque Centrale Européenne. Le Conseil des gouverneurs qui s'est réuni aujourd'hui à Francfort a maintenu à 2% son principal taux directeur. Cette décision était largement attendue par les économistes. Jean-Claude Trichet a défendu ce nouveau statu quo monétaire. Pour le président de la BCE, les pressions inflationnistes se sont récemment atténuées. Il a aussi assuré que l'institution resterait vigilante sur l'évolution des prix à court terme. Les défaillances d'entreprises ont été un peu moins nombreuses en France en 2004. Elles ont augmenté de 1,5% après une hausse de 11,7% en 2003. C'est ce qui ressort de l'étude publiée par la société d'assurance crédit ELR Hermès SFAC. Ce résultat est cependant un peu décevant. En effet, les économistes espéraient un léger recul du nombre des défaillances compte tenu de l'accélération de la croissance observée en 2004. Pour l'année en cours, l'assureur table sur un léger recul de 1% des défaillances. La riposte à France Télécom s'organise. Les opérateurs alternatifs ont été reçus cet après-midi par le ministre délégué à l'Industrie, Patrick Devedjian. Ils sont venus exposer leur point de vue après l'annonce de l'opérateur historique qui affirme vouloir baisser les tarifs des appels tout en augmentant le prix de l'abonnement. C'est l'autorité de régulation des télécoms qui doit trancher. Si elle donne raison à France Télécom, les opérateurs alternatifs redoutent une distorsion de concurrence. Nicolas Sarkozy a profité de ses vœux à la presse pour se démarquer une fois de plus de Jacques Chirac. Le président de l'UMP a émis des réserves sur la décision du chef de l'État de reprendre la baisse des impôts en 2006. Pour l'ancien ministre de l'économie, ce n'est qu'en fonction de l'impératif d'équilibre budgétaire qu'il faudra envisager des baisses d'impôts. L'avenir de Marionneau pourrait passer par la Chine. Selon un syndicat, le distributeur de parfums a conclu un accord pour être racheté par le groupe chinois AS Watson. Une information cependant démentie ce soir par la direction de Marionneau. L'intérêt de Watson pour Marionneau et ses 1300 magasins n'est pas surprenant. Le chinois détient déjà plusieurs chaînes d'hygiène beauté et de parfums en Europe. Enfin, le salon du meuble a ouvert ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Un salon qui réunit des milliers d'industriels et qui se tourne de plus en plus vers les nouvelles tendances de l'ameublement côté design. Vous écoutez BFM, c'est la fin de ce journal.
BFM Pro. 01 Business avec la rédaction de 01 Informatique, Luc Fayard.
Notre coup de pouce à une start-up maintenant, en collaboration avec Lorvar, nous avons au téléphone le directeur général et fondateur de la société Tinubu Square, Pierre-Emmanuel Albert. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre spécialité chez Tinubu Square, c'est le risque financier, les impayés. Ça reste encore un gros problème en France. C'est un bon marché pour vous, Pierre-Emmanuel Albert?
Ah oui, c'est un marché très important puisque il représente pour les entreprises en France près de 1% du chiffre d'affaires. Et j'entends par là le coût du risque, c'est-à-dire la créance irrécouvrable plus la gestion de ce risque.
Alors, Pierre-Emmanuel Albert, pour aider les entreprises à résoudre ce problème, vous avez décidé de créer une plateforme d'intégration. En quelques mots, hein, pas trop technique, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle fait exactement?
Oui, nous avons créé effectivement une plateforme qui fonctionne en mode ASP, c'est-à-dire sans implantation de programme chez nos clients, qui permet de gérer de façon extrêmement réactive le risque client, c'est-à-dire la dégradation du risque d'un client.
En quoi votre système d'analyse des risques, finalement, est-il particulièrement performant Qu'est-ce qu'il a de différent des autres?
Alors, d'une part, juste pour préciser, il gère les risques et il permet également de les transférer.
D'accord.
C'est-à-dire de transférer ces risques auprès d'un assureur.
Donc il est en liaison, en fait, avec un certain nombre d'organismes et des choses comme ça, c'est ça?
Voilà, il est au cœur, en fait, d'un flux d'informations entre les sources d'informations du type Dun & Bradstreet ou Coface CRL.
Oui.
Au cœur aussi de flux d'informations entre l'entreprise et son assureur crédit.
Oui.
Ainsi que avec les courtiers et voire les banques qui financent le poste client.
Alors finalement, la mesure de votre performance, c'est quoi? C'est les économies que vous faites réaliser à vos clients? Vous avez quelques exemples?
Nous avons un client qui s'appelle WStore.
Ouais.
WStore était d'ailleurs le premier, c'est un client historique de Goodspot, c'était le premier client. C'est une plateforme, un site de vente de produits informatiques par Internet.
Mmh.
Eh bien, WStore, qui avait près de 400 000 euros de créanciers recouvrables en 2001, est actuellement à moins de 40 000 euros.
Ouais, c'est une belle performance. Bon, alors, profitez de notre présence à l'antenne, puisque c'est notre séquence coup de pouce à une start-up. Et c'est quoi la prochaine étape de Team Ubu Square? De quoi avez-vous le plus besoin? Des collaborateurs d'argent? Dites-nous tout, Pierre-Emmanuel Albert.
Nous, on a besoin justement de ce type d'émission pour faire connaître aux entreprises l'existence
ouais.
de cette plateforme qui effectivement a un track record très 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 positif, puisque sur ce 1% de coûts pour les entreprises en moyenne, ce 1% on est capable de le réduire de l'ordre de 40 à 50 voire 60%.
Eh bien écoutez, merci Pierre-Emmanuel Albert, directeur général et fondateur de la société Team Ubu Square. Vive les startups françaises et bonne chance dans votre aventure. Le logiciel libre maintenant avec vous, Benoît Cibot. Je suis ravi de vous recevoir et de pouvoir parler de ce thème, hein, du logiciel libre qui intéresse de plus en plus de monde. Et puis on va essayer de démêler un peu le vrai du faux, le mythe de la réalité. Vous êtes le nouveau président de April, Association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Deux mots d'abord sur cette association. Ce sont tous des barbus, des chercheurs, des utopistes?
Non, il y a l'association comporte 200 membres, plus quelques personnes morales. Il y a une partie d'informaticiens, ainsi que des non-informaticiens, des gens qui sont plus dans l'éducation, des gens qui sont dans l'industrie, etc. Donc c'est plutôt un public varié, même s'il y a quand même une majorité d'informaticiens.
C'est pas un peu marketing de parler d'informatique libre? Ça veut dire que l'autre, elle est emprisonnée, hein. C'est pas très sympa pour tous les informaticiens qui travaillent. Ils sont en prison, c'est ça, Benoît Cibot?
En prison, non, mais les contraintes sont plutôt pas vis-à-vis des développeurs, mais vis-à-vis des utilisateurs.
Ouais.
Ils se retrouvent avec des logiciels limités dans leurs possibilités.
Dans l'actualité, il y a quelque chose qui vous inquiète à l'April, hein, vous en avez parlé, vous avez même publié un article là-dessus, c'est l'accord conclu entre Microsoft et l'UNESCO. Bon, finalement, où est le problème? Bon, Microsoft donne des moyens à l'UNESCO, vous trouvez que c'est plutôt bien, non?
Oui, Microsoft obtient surtout, s'achète surtout une caution auprès de l'UNESCO pour bénéficier de son aura. Et l'accord censé parler de développement ne parle que de développement à court terme, alors que nous nous intéressons plutôt au développement durable.
Mais est-ce qu'on peut, dans ce concept hein, de logiciel libre, est-ce qu'on peut promouvoir finalement quelque chose qui soit à la fois, on va dire, un argument un peu social ou de développement durable, comme vous pouvez le dire, et puis aussi un argument économique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être à la fois un outil pour le business et un espèce de levier de réduction de la fracture numérique?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est actuellement utilisé. Il est utilisé d'une part par les associations, les États, les gouvernements, les collectivités territoriales pour des actions plutôt sociales, et par les entreprises à des fins plutôt économiques.
Alors on va peut-être faire un peu de définition quand même. Hein. C'est quoi le logiciel libre pour vous, votre définition, et puis en quoi il est différent du logiciel pas libre?
Alors, c'est pas spécialement ma définition, mais la définition couramment admise pour le logiciel libre est basée sur les quatre libertés.
Ouais.
Les quatre libertés concernent le fait de pouvoir utiliser le logiciel librement, sans discrimination,
ouais.
De pouvoir consulter, de regarder comment il est fait et accéder donc à la façon dont il est réalisé, et de pouvoir le modifier, pouvoir en faire des copies librement et donc le distribuer à ses collègues, etc. Et enfin, avoir aussi la possibilité de rediffuser les versions modifiées librement.
Alors si on parle un peu de des utilisateurs potentiels, l'ensemble des utilisateurs, on peut parler d'abord du grand public, essayons de voir un peu. Et est-ce que je peux vraiment aujourd'hui faire avec du logiciel libre tout ce que je fais avec du logiciel propriétaire? J'entends au niveau des applications, c'est-à-dire les jeux, la vidéo, Internet, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, au niveau du grand public?
Au niveau du grand public, on a constaté récemment une grande mode autour du navigateur libre Firefox.
Ouais.
Et de la suite Internet Mozilla, et aussi un engouement en augmentation autour de la suite OpenOffice.
Mais il manque encore quand même le catalogue, je dirais, de tout, par exemple les jeux. On n'a pas beaucoup de jeux en ce moment sur le logiciel libre.
Il y a quelques jeux, mais il y en a un certain nombre, mais pas autant, il est vrai, que du côté propriétaire.
Et est-ce que, quand même, en étant un peu provocant par rapport à vous, est-ce que la vraie liberté pour l'utilisateur, c'est pas le choix? D'un côté, j'ai un catalogue qui est très riche, et donc je fais ce que je veux, même si j'ai un système d'exploitation, mais à la limite, c'est le moteur, ce qu'il y a sous le capot, je m'en fiche. Et de l'autre, j'ai effectivement cet avantage, peut-être, théorique du logiciel libre, mais en fait, j'ai quand même pas un grand catalogue à ma disposition aujourd'hui.
Pousser derrière, à savoir que le logiciel propriétaire, donc par opposition au logiciel libre, véhicule des valeurs qui consistent à empêcher de partager avec ses amis, de partager avec les autres, qui brident un peu les possibilités d'étudier un logiciel, donc qui concerne à la fois les techniciens et aussi les gens qui voudraient faire des améliorations à leur logiciel, typiquement faire une traduction, adaptée pour un usage particulier, etc. Et donc, avec le logiciel libre, ces situations-là sont possibles. Avec le logiciel propriétaire, ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire que vous êtes encore, je pensais que c'était un peu dépassé, ça, vous êtes encore un peu dans une guerre de valeurs, finalement, hein, entre une vision, on va dire, fermée, capitalistique, et une vision partage et ouverte, c'est ça?
C'est surtout une question de liberté. Après, la liberté peut être de garder un certain contrôle sur ce qui est fait avec le logiciel, d'éviter d'avoir des logiciels qui portent atteinte à la vie privée pour les particuliers, ou qui portent atteinte à la sécurité nationale pour les administrations. C'est des questions de valeurs de partage qui peuvent être poussées. Du point de vue de la prise, nous intéressons aussi aux valeurs qui sont derrière.
Vous avez cité tout à l'heure un peu des utilisations dans les entreprises. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez vraiment des grandes références aujourd'hui? On parlait il y a pas longtemps de la mairie de Paris. Elle va basculer ou pas dans le livre, à votre avis?
Pour le moment, les déclarations de la mairie de Paris ne sont pas un choix, un basculement entièrement vers le libre. Mais ce n'est pas les qualités du logiciel libre en tant que tel qui sont remises en cause. C'est plutôt l'état actuel de leur parc informatique qui ne permet pas de faire une migration immédiate vers le logiciel libre.
L'autre image du livre, je me fais un peu l'avocat du diable, c'est on dit il serait souvent pris par dépit quand on n'a pas d'argent finalement, quoi. Donc par exemple les administrations, le secteur public, les hôpitaux, c'est un peu vrai, non, Benoît Thibault?
On voit quand même qu'il y a toutes les semaines des annonces de gouvernement qui souhaitent migrer vers le logiciel libre. Un certain nombre migrent pour d'autres raisons, pour les questions d'indépendance économique, de sécurité nationale, de développement à long terme, de contrôle sur les logiciels, de pérennité des logiciels, de fiabilité, etc.
Alors justement, un autre reproche qu'on fait au Libre, c'est qu'il ne donnerait pas la vérité sur les chiffres, sur les coûts réels, parce que bon, il y a la migration, le service, la mise à jour, l'adaptation, et finalement, il y a un peu une tendance, une théorie des opposants, hein, qui dirait que finalement, ça revient aussi cher que du propriétaire. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça, Benoît Thibault?
Ils utilisent souvent une stratégie qui est assez subtile, qui consiste à comparer la migration d'une solution propriétaire vers une solution libre.
Ouais.
Une situation plutôt favorable, alors que si on compare un passage direct vers du logiciel libre, les solutions sont beaucoup plus avantageuses.
Oui, mais ça, il y a quand même beaucoup d'entreprises et d'organisations qui sont déjà équipées, vous y pouvez rien, là.
Oui, tout à fait, mais il y a aussi d'autres coûts qui ne sont en général pas comptabilisés dans ces études, par exemple le coût de la gestion des licences pour tous les logiciels propriétaires. C'est un coût qui est quand même relativement important de savoir gérer son parc de licences, combien on a de licences, savoir que telle personne n'aura pas le droit d'utiliser, que sur telle machine on ne pourra pas l'utiliser, que... Toutes ces contraintes sur le logiciel posent un certain nombre de problèmes de gestion.
Alors il y a un autre débat sur lequel j'ai un peu du mal à me faire une opinion. Moi, c'est la performance. Hein. Par quel miracle, je dirais, ce logiciel libre serait-il forcément plus performant que le logiciel propriétaire?
Ah, le logiciel libre n'est pas forcément plus performant que le logiciel propriétaire, mais on constate que dans les faits, c'est très souvent le cas. C'est d'ailleurs pour ça que l'Internet tourne majoritairement grâce à du logiciel libre. Au niveau infrastructure, le logiciel libre a très fortement percé.
Est-ce que Firefox est plus rapide que Internet Explorer, par exemple?
Est-ce que c'est vraiment la rapidité qui est le sujet intéressant de ce côté-là? Les critères qui sont mis en avant sont plutôt des nouvelles fonctionnalités, une meilleure fiabilité, moins de problèmes de sécurité.
Alors justement, la sécurité, c'est aussi un des thèmes un peu comme Apple. Il a pas beaucoup de parts de marché, donc il est pas beaucoup attaqué, donc on peut pas dire, on sait pas vraiment s'il est plus sûr que, par exemple, les environnements Microsoft.
Même chose, c'est pas le, intrinsèquement, il n'est pas forcément plus sûr. On constate aussi que la sécurité est meilleure, et là où on a des parts de marché supérieures pour le logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire, sur les navigateurs web par exemple, on constate que la sécurité est meilleure du côté du libre que du côté des navigateurs propriétaires.
Eh bien écoutez, merci Benoît Thibault, président de April. On a fait vraiment le point avec vous sur le libre. Donc April, l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Anissime Bida, journaliste à Zéro Informatique, bonsoir.
Bonsoir Luc.
Alors, vous allez nous parler de l'ordinateur qui déclenche la haine et la colère.
Eh oui, il n'y a pas que la voiture qui rend les gens nerveux. C'est un mal croissant qui envahit le monde des hautes technologies en ce moment. Et c'est les violences physiques faites aux machines.
Ah bon, c'est les machines maintenant qui sont les victimes.
Et il suffit du moindre plantage, du moindre dysfonctionnement, du moindre virus pour que les gens s'énervent et perdent leur sang-froid dans l'ordinateur. Alors, on a tous plus ou moins expérimenté
pour
les gens qui s'énervent. Mais il y a une étude qui a confirmé un peu la tendance.
Alors ?
Il y a 60% ont déjà insulté l'ordinateur copieusement au bureau.
Bon, on est dessus, on est dedans, je veux dire, oui.
31% ont jeté là-dessus. 15% avoir même tapé, donné un coup de poing sur l'écran, ou bien donné un coup de pied sur l'ordinateur, lui disant qu'il est sous le bureau.
Et alors, on raconte une histoire hein, sur un commercial de Walmart.
Commercial de Walmart qui, lui, a complètement, qui était en pleine, qui était en partance. Il devait rendre un projet qui avant midi. Il était dans un bar et il n'arrivait pas à se connecter sur Internet. Il n'arrivait pas à envoyer son rapport. Il était complètement excédé. Il était texan. Il a sorti son Colt. Il a tiré 4 balles dans son portable à bout portant. Il a été arrêté par la police.
Bon. Et alors en Ukraine, on essaie de canaliser cette colère.
Oui, pour déstresser les cadres, on a inventé des petits concours avec des niveaux selon le degré de frustration et d'énervement des cadres.
Alors, c'est quoi les exercices
hein? À niveau 1, si on est un peu frustré par les erreurs système et l'ordinateur refuse de démarrer, et ben on propose simplement de prendre le clavier et de le frapper contre un mur.
C'est pas mal.
Exercice ouais. Numéro 2, si un site ne répond pas ou on a un problème de validation de commande, c'est-à-dire on est sur Internet, on essaie de cliquer, la commande ne part pas, et bien là, on a le droit de tirer un coup franc avec sa souris. On prend sa souris par terre, on essaie de jouer des Zidane.
Et alors, niveau 3?
Et niveau 4, alors ça c'est le virus, le plantage avec la perte de données. Là, on vous donne une masse et on vous propose de casser l'écran.
Et alors, que reçoivent les gagnants?
Un ordinateur, tout neuf.
D'accord.
Et le droit de s'inscrire à une hotline privilégiée où ils ont un accès privilégié pour avoir des informations quand ils ont un problème avec leur ordinateur.
Voilà. Et pour info, donc le record du lancer de téléphone portable.
82,55 m qui vient d'être battu la semaine dernière.
Avec
un téléphone Nokia.
Bon, merci Anissime Bida, journaliste à Zéro Informatique. On se retrouve dans un instant avec le philosophe Jean-Michel Besnier.
BFM, Goût de Luxe, Emmanuel Rubin, Karine Vergnol.
Parce qu'on peut avoir des goûts de luxe et ne pas s'appeler Crésus, à l'occasion des soldes, nous vous livrons les bons plans du luxe.
Deux heures de mode d'emploi, de conseils et d'adresses futées pour vivre le chic à prix choc à propos de voyage, d'automobile, de high-tech, de mode, de vin et de gastronomie. Une émission bon chic, bon genre, bon plan.
Goût de Luxe, c'est le samedi à 19h et le dimanche à 10h sur BFM.
Chaque jour à l'heure du déjeuner, Bloomberg Télévision vous aide à comprendre l'orientation des marchés financiers. Midi Finance, le rendez-vous de la mi-séance sur Bloomberg. Un grand dossier commenté par les spécialistes, toute l'actualité qui fait bouger les marchés. Midi Finance, chaque jour à midi sur Bloomberg Télévision. Disponible sur le câble et sur canal satellite.
Professionnels de la finance, bénéficiez gratuitement d'un essai sur agfi.fr, le nouveau service internet du quotidien l'AGFI. agfi.fr, c'est plus d'informations avec l'actualité des marchés en temps réel. Plus de services en ligne avec l'annuaire de la finance. Plus de contenu sur les métiers de la finance avec toutes nos enquêtes sur les salaires. Pour bénéficier gratuitement d'un abonnement à agfi.fr, connectez-vous dès aujourd'hui sur agefi.fr. agfi.fr, le web des professionnels de la finance.
Sur radiobfm.com, c'est la bourse aux idées. Participez au forum de radiobfm.com et continuez les grands débats de l'économie. Partagez vos impressions sur la séance du jour, retrouvez les valeurs boursières qui font réagir. Le forum de BFM sur radiobfm.com.
BFM Pro. 01 Business avec la rédaction de 01 Informatique, Luc Fayard.
Notre dernière séquence maintenant, un autre regard, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui ce sera le regard du philosophe, ça va nous faire du bien, on en a besoin. Jean-Michel Besnier, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 4 Sorbonne, chercheur au CREA, le centre de recherche en épistémologie appliquée, au laboratoire de polytechnique et du CNRS, agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques, l'auteur de nombreux ouvrages dont Histoire des idées, Réflexion sur la sagesse, des titres que j'aime bien, et a publié en 2000 un recueil de textes intitulé Peut-on croire encore au progrès, aux presses universitaires de France Fleur? C'est ma première question. Vous y croyez, vous, au progrès, Jean-Michel Besnier?
Ah oui, moi, je suis résolument rationaliste dans un contexte où, effectivement, on est de plus en plus perplexe à l'égard de l'évolution de notre société et donc des valeurs de progrès.
Jean-Michel Besnier, pourquoi y a-t-il aussi peu de philosophes qui, comme vous, s'intéressent à la technologie? Ils en ont peur? C'est trop compliqué pour eux?
Ah ben, il y a une vieille tradition de disqualification de la technique. Hein, chez les philosophes, la technique, c'est l'affaire des esclaves. Hein, faut bien dire, quand même. Hein. On est asservi à la nature. Hein. La technique, c'est l'ensemble des démarches qu'on met en œuvre pour ruser avec la nature. Mais bon, on n'est pas dans la culture.
Donc on perd sa liberté, quoi.
On perd sa liberté.
Ah, absolument. Il y a peut-être aussi, j'y ai pensé, une espèce d'incompatibilité d'humeur entre ces deux domaines. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, je crois. La technologie, c'est la vitesse.
Oui, absolument. La philosophie est du côté de la contemplation. Elle considère que la plus haute pratique, c'est la théorie en tant que contemplation. Alors, de fait, on est, lorsqu'on est philosophe, un peu déconcerté par la vitesse, par cette espèce de fuite en avant permanente. Hein, qui nous fait oublier l'essentiel, qui recouvre tout ce que sont les grandes questions du philosophe sont recouvertes par la technique qui manipule des étangs, comme disaient les philosophes.
Des étangs, oui, au parti présent, c'est ça.
C'est ça, c'est ça, les étangs par opposition à l'être.
Voilà. Jean-Michel Besnier, vous parlez souvent de la nécessité du rituel, hein, et selon vous, ce rituel disparaît notamment avec Internet, c'est cela, hein?
Bah, oui, bah, disons que Internet homogénéise les pratiques à l'échelle de la planète et du coup effectivement tout ce qui est indice de singularité est en train de se diluer, de se dissiper. Donc on assiste de fait à une planétarisation des comportements liés précisément aux machines qui dictent des usages.
C'est pas, j'agis là, c'est pas un petit peu au contraire quand même à ce qu'on voit. Moi, je viens de plonger dans le phénomène des blogs. Les blogs sont très différents de l'un à l'autre. Il y a au contraire une espèce d'explosion d'expression de contenu. Donc il y a peut-être des comportements homogènes dans l'utilisation, mais peut-être une appropriation.
Oui, vraisemblablement. Hein, le phénomène des blogs est assez nouveau et assez déconcertant. On a l'impression que c'est la tentative pour préserver de la singularité dans un univers qui lamine complètement. Donc il y a une intériorité qui est préservée là, hein, dans la pratique du blog, alors qu'on pouvait être inquiet sur ces valeurs d'intériorité. On avait l'impression avec Internet que chaque individu se pensait d'abord comme un être communicant, c'est-à-dire ouais. Un être qui n'existe que dans la relation, ouais. Et qui n'a plus de substance.
Ouais, c'est toute la théorie de Palo Alto, etc.
Absolument, ouais. Absolument. Ouais. Hein. Et là, le blog et ce goût pour le récit de soi est une manière de camper sur une individualité.
C'est plutôt une réaction que vous trouvez positive.
Ah oui, oui, moi je pense que c'est tout à fait positif.
Quand on regarde d'autres comportements, bon, ma fille de 14 ans, mais elle n'est pas la seule, hein, qui passe beaucoup de temps sur MSN à chatter avec ses copines ou à échanger des photos sur son blog. Votre avis, un peu de moraliste, c'est bien ou c'est pas bien ça pour ces enfants, votre avis, Jean-Michel Besnier?
Bah, je dirais que ça peut paraître bien dans la mesure où...
Attention, elle vous écoute peut-être. Hein.
Ça encourage à la communication, donc tout ce qui encourage à la communication, à mon avis, est bien. Ce qui est mal, et encore une fois, bon, je sais pas si c'est vraiment un jugement de valeur, mais l'autisme est plutôt nocif. Mmh. Hein, l'humanité se définit d'abord et avant tout par l'aptitude à la communication. C'est parce que nous sommes des êtres de communication que nous sommes des hommes appelés à grandir.
Mais ils communiquent, ces jeunes, quand même. Alors, ils échangent.
Toute la question est de savoir s'ils communiquent ou s'ils s'expriment. Moi, je me méfie beaucoup de cette espèce de culte de l'expression, hein, qui n'est pas forcément synonyme d'écoute. Pour communiquer, il faut être deux individus à part entière.
Il y a peut-être pas d'échange, il y a peut-être simplement juxtaposition d'expressions personnelles.
Absolument. Voilà, c'est ça, absolument. Hein. C'est une espèce de, le psychanalyste Lacan avait une expression pour ça, il parlait de jaculation.
Ouais.
C'est jaculation.
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 D'accord.
Hein. Enfin, vraiment, on jette en pâture comme ça des mots de la subjectivité. Et ce culte de l'expression qui est vraiment typique des années 80-90, bon, n'est pas forcément un facteur d'enrichissement.
Et si on revient sur les blogs, moi, ce qui me, au dehors du phénomène général d'expression ou peut-être de cumul de ces expressions personnelles, il y a quand même ce phénomène des commentaires qui sont postés, des réactions aux commentaires, on va dire. Cette espèce d'interactivité très rapide, quand même très très nerveuse sur ce qui est dit sur un blog, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant pour faire avancer la pensée.
Ah oui, moi je crois que c'est intéressant. Je crois que là il y a quelque chose, on tient là quelque chose d'assez nouveau et il y a une intersubjectivité qui
c'est quoi, est. C'est quoi l'intersubjectivité pour nous les néophytes là.
C'est le fait de mettre en relation deux individus qui se pensent comme des sujets. Hein, des sujets, c'est-à-dire qui prennent une certaine initiative dans une relation, hein, et qui défendent des valeurs, qui défendent des idéaux, qui défendent des arguments.
Est-ce que ce côté un peu place publique, là, espace public, il y a bien sûr, on pense à Jürgen Habermas, mais moi j'ai envie de remonter presque au modèle de l'agora où on peut débattre, ça c'est intéressant ça.
Bien sûr, de ce point de vue-là, oui, tout à fait, on est dans la tchatch ou dans l'agora, sauf que l'agora était très très ritualisée.
Elle était organisée.
Organisée, ritualisée.
Il n'y avait pas vraiment égalité en fait, hein, il y avait des gens qui organisaient. Et ceux qui parlaient ?
Ah bien sûr, c'était dans un contexte où existaient des esclaves, des femmes et des enfants qui n'avaient pas accès à l'agora. Mais le rituel, c'était quand même la prise de parole. On se déplaçait, on allait au centre du forum ou de l'agora, hein, on prenait la parole, on reprenait sa place et ensuite quelqu'un vous suivait. Il y avait donc une ritualisation sévère. Or là, on est quand même un petit peu dans le désordre, dans le joyeux désordre, et on espère que de cet désordre émergera de l'ordre. Hein, on est vraiment tout à fait aujourd'hui dans cette idéologie du désordre générateur d'ordre.
Alors selon vous, hein, je crois, vous voyez un autre danger dans le cyberespace, c'est peut-être un risque de confondre le réel et l'imaginaire, en fait, c'est ça, c'est un risque un peu de schizophrénie, hein, c'est ça votre...
Oui, oui, bon, moi le cyberespace, donc, connote pour moi cette espèce d'immersion dans une espèce de religiosité anéantissante, hein, je dirais jusque là.
Ça ne paraît pas très positif ce que vous dites.
Ah, non, mais ça ne l'est pas. Hein, je pense que là, dans l'idéologie du cyberespace, je parle d'idéologie, ouais. C'est-à-dire les représentations que ça génère, je suis assez effrayé par les gens qui me disent très simplement que grâce à la connexion de tous nos ordinateurs à l'échelle de la planète, hein, nous allons réaliser une espèce de cerveau planétaire et vous, moi, nous serons chacun un neurone de cette planète et nous aurions de quoi jubiler parce que un neurone est toujours remplaçable. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose d'assez effrayant.
Alors le cerveau, justement, parlons-en. Vous travaillez beaucoup dans le domaine des sciences cognitives. Est-ce que le cerveau humain, il va changer à force de se frotter à ce point au numérique?
Vraisemblablement, toute activité que nous commettons transforme notre cerveau, hein, détermine des itinéraires synaptiques.
On est tous des futurs robots, alors
si on n'est pas de futurs robots, en tout cas, le fait d'être formaté de telle ou telle manière par nos machines doit changer quelque chose. On n'en prend pas encore tout à fait la mesure. On peut neurobiologiquement, on n'en prend pas encore tout à fait la mesure, mais déjà au niveau des comportements, au niveau de l'utilisation du langage, par exemple, on a un certain nombre d'indices qui témoignent bien que nos machines ont un impact sur notre manière de penser.
Et j'en profite que vous êtes là avec votre science, justement, du cerveau. Ce syndrome de saturation d'informations, hein, par les médias, par Internet, dont on parle de plus en plus, vous en pensez quoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ou l'amadouer?
Bah, se débrancher. Essayons de se débrancher, bien entendu. Voilà, moi, ce que lisez de la philosophie, lisez de la poésie, emprunter les chemins de campagne, mais bien sûr. Non, mais le syndrome de saturation cognitive, le fameux COS, hein, dont ouais. On parle de plus en plus.
Cognitive overflow syndrome, c'est ça
ouais. Absolument. Ouais. Bon, est effectivement assez effrayant. Et nous, bon, alors peut-être que aujourd'hui, le phénomène de la urbanité, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont besoin de s'éloigner des villes est un indice qu'il y a un sursaut de bon sens.
Bon, on termine sur un message optimiste. Merci Jean-Michel Besnier, philosophe et chercheur au CREA. Notre émission 01 Business sur BFM se termine. Merci également à nos autres invités. Benoît Gilmuni, président de l'Accenture France. Serge Laffont, directeur de système d'information du groupe Areva. Et Benoît Thibault, président de April, association pour la promotion et la recherche en informatique libre. N'oublions pas notre coup de pouce à la start-up Tinobu Square, son directeur général et fondateur Pierre-Emmanuel Albert. Merci enfin à nos trois chroniqueurs, journalistes de 01 Informatique, Frédéric Sébotel, le rédacteur en chef, Jean-Marie Portal et Anissé Mbida. C'est Luc Fayard dans 01 Business, l'entreprise face aux nouvelles technologies, réalisée en collaboration avec la rédaction de 01 Informatique. À la semaine prochaine.
01 Business avec 01 Informatique. Dans tous vos déplacements, emportez BFM avec vous dans vos bagages. Nice 104.4, Toulouse et Nantes 107.2, Bordeaux 107.3, Aix-en-Provence 93.8, Paris 97.4.